Slime, saison 2, épisode 5, rideau.
Ça y est, les beaux jours reviennent, le soleil brille, les oiseaux chantent, les bourgeons éclosent et libèrent dans l'atmosphère tout un tas de délicieux pollens qui nous grattent la gorge et nous cassent la voix. Et c'est vraiment pas de chance quand on fait de la comédie musicale parce qu'après, chanter c'est plus compliqué. Ah, le printemps a pour moi une saveur toujours particulière. À la fois, il représente un recommencement, un renouveau du cycle de la vie. Et en même temps, c'est le moment où on se rend collectivement compte qu'il va falloir sérieusement se bouger et mettre les bouchées doubles pour que le spectacle qui se joue dans à peine un mois et demi soit fin prêt. Et oui, le printemps, c'est aussi la saison de la panique, car on aimerait bien que tout soit déjà prêt et en place. Et pourtant, on sait parfaitement que ce ne sera jamais le cas, malgré toute la bonne volonté du monde. C'est ça, les aléas du spectacle. Alors aujourd'hui, dans ce numéro de Slime, on part en immersion dans la conception d'un spectacle original. C'est promis, qui se jouera le 29 juin au Théâtre Saint-Georges. On vous en parle dans quelques instants.
Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale, un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien ce début de soirée. Bienvenue dans Slime, l'émission dans laquelle les chroniqueurs aiment bien rappeler que eux aussi, ils font de la comédie musicale parfois. Je suis Ange et je suis installée par terre. Je regarde un super spectacle de rue, mais ce serait quand même mieux s'ils avaient des micros. Et à côté de moi, il y a Élise. Ça va, Élise?
Ça va, Ange?
Ça va super, et toi?
Merveilleux, parfait.
Mais ce n'est pas tout, car juste devant nous, messieurs, dames, je vous présente nos invités, Andrea et Rosalie, qui viennent nous parler de leur spectacle C'est Promis. Vous allez bien? Vous êtes bien installés?
Mais ça va super, on est trop contentes d'être là.
Le
plaisir partagé.
Nous avoir. Ce soir, pour cette émission un peu spéciale, on vous propose une plongée dans l'univers de la création d'un spectacle, en compagnie de nos invités de marque. Alors installez-vous, prenez à boire et restez avec nous, car on vous réserve peut-être quelques surprises. Slime, l'émission où vous pouvez prendre des photos du moment que le flash est éteint, c'est maintenant.
Et écoutez, on est avec nos chers invités que je suis ravie de retrouver ici. On se connaît plutôt bien avec Andrea, puisque c'est une personne super qui aura l'occasion de nous dire ce qu'elle fait, puisque je vais te donner la main à toi, à Rosalie, pour vous présenter un petit peu ce que vous faites dans la vie, en général et artistiquement, pour qu'on puisse un peu vous connaître avant de parler de votre spectacle.
Bah merci beaucoup. Bah écoutez, moi c'est Andrea Schneider, je suis coach vocal à Paris et je suis spécialisée dans la comédie musicale. Je suis scénariste, metteur en scène, auteur, compositeur, interprète. On essaie de mélanger tous les trucs qu'on aime et en faire une jolie soupe. En gros, c'est un petit peu ça qui se passe en ce moment. Et je donne beaucoup de cours de façon générale, cours de chant, cours de comédie musicale, danse, théâtre, mais j'écris aussi des spectacles et du coup, bah, si on est là ce soir, c'est pour parler d'un de ceux-là. Et je suis venue avec ma petite sœur, Rosalie.
Rosalie Laurent Schneider. Au quotidien, je suis encore étudiante, donc au lycée, mais il se trouve que je fais aussi quelques trucs artistiques, notamment plastique, ce qui est utile à ma sœur quand il s'agit de faire des décors et des costumes. D'où ma présence à Paris aujourd'hui, car je n'habite pas là. Et je fais de la comédie musicale aussi à côté, intéressant à dire.
C'est une affaire de famille finalement. Est-ce qu'il y a eu une histoire de contamination entre de grande sœur à petite sœur dans ce...
C'est bien pire que ça, c'est bien pire que ce que tu imagines.
C'est terrible, c'est non, précisément mais... ça.
Une
c'est
prise d'otage, je pense.
Précisément ça, elle fait exactement le même cours que moi j'ai fait. Donc moi j'y suis allée, il y a même mon petit frère, celui qui est entre nous deux, qui y est allé aussi. Lui il a arrêté, mais Rosalie y est toujours. Donc c'est clairement une contamination spectacle. On a une costumerie dans notre garage. C'est...
La vie de rêve.
Shout out to ou notre costumière, rêve. Notre mère.
Magnifique.
Pense à toi, maman.
Finalement, c'était tout naturellement que tu es allé voler ses capacités pour ton spectacle que tu écris. C'est beau. Et du coup, tu as commencé en faisant un cours du coup, de comédie musicale. C'est ça que tu as forcé tes petits frères et sœurs à rejoindre, c'est ça?
C'est ça qui s'est passé. J'ai dit à ma mère, mais attends, maman, j'adore chanter, j'adore faire du théâtre, j'adore danser. Elle me dit, mais attends, faut qu'on trouve un cours de comédie musicale. On était arrivé dans la région toulousaine, fraîchement à ce moment-là. Et on a découvert le cours Figaro & Co, qui est donc le même cours qu'on fait avec Rosalie, dirigé par Gilles Ramade. Et c'est là que j'ai commencé la comédie musicale. Et je suis tombée amoureuse autant de ce qui s'y passait sur scène, mais de ce qui se passait derrière. Et c'est là que la vraie passion est arrivée, où je me suis dit, oh, mais moi aussi, je veux écrire des spectacles, je veux mettre en avant plein de talents, des histoires folles, des émotions, tout ça. Voilà, ouais. Les grandes idées, quoi.
Vas-y, je t'en prie.
La vérité, c'est qu'on n'a pas du tout été forcés, c'est qu'on est venu voir en fait les spectacles d'Andrea tous les ans et que ça a commencé à très vite nous faire rêver en fait. Parce que c'est vrai que la scène, en tant que spectateur, c'est magique. Quand on y est, on se rend compte que c'est encore plus fou.
Alors moi, j'ai une question qui me vient, plus pour Andrea. Tu nous as dit du coup que tu étais professeur de chant, professeur de comédie musicale, coach vocal, etc. Qu'est-ce qui est venu en premier en fait ? Est-ce que c'est le chant ? Est-ce que c'est la comédie musicale ?
C'est le chant. Le chant, c'est ce qui est venu en premier parce que j'ai chanté très vite, très mal au départ.
Normal, c'est normal.
Bien sûr, comme tout le monde, je tiens à préciser, on peut vraiment tout faire avec du travail. J'adorais ça. Et puis, j'ai été élevée avec Disney Channel. Voilà, moi, je suis une Disney Channel girlie, Anna Montana et tout le bazar, mais surtout les Cheetah Girls et d'autres choses, parce que je suis pas toute jeune. Et du coup, bah, la passion de chanter et d'aimer voir ces histoires en musique, moi, c'était mon rêve. Moi, je faisais des rêves la nuit où on pouvait se mettre à chanter et danser. C'était pas ridicule. Les gens me suivaient et tout. J'ai vécu des trucs.
Bollywood.
Ah, mais moi, mon rêve, c'était de vivre dans Fame, dans High School Musical. Donc, ça s'est vite transitionné vers la comédie musicale et j'ai pu allier le chant à la comédie musicale. C'est ça qui s'est passé globalement.
Mais c'est incroyable. J'espère qu'on vivra dans ce monde un jour.
Mais je le souhaite.
Et toi, du coup, Rosalie, tu fais les costumes sur le spectacle. Du coup, tu fais de la couture. Est-ce que c'est un truc que t'as appris ? C'est en autodidacte ? Est-ce que c'est vraiment les costumes, l'univers du costume qui t'attire là-dedans ou c'est autre chose ?
Alors, un peu tout. Déjà, pour ce costume-là précisément, je fais pas la couture. Je m'occupe surtout de la customisation. Donc, ici, la peinture, en l'occurrence.
Il y a eu beaucoup de peinture.
Les années
déjà
d'avant,
beaucoup,
je crois que j'ai fait un tout petit peu de couture.
Ouais.
C'est très possible.
Ouais.
Mais sinon, c'est quelque chose que j'ai développé en autodidacte par passion pour l'art plastique à la base. Puis ensuite, quand j'ai développé une autre passion pour la scène, les deux ont commencé à un peu se mélanger. C'est vrai que la costumerie, ça paraît une solution un peu évidente pour ça.
Elle fait l'accessoirisation aussi du spectacle.
Ah bah oui, ça va ensemble.
Les props, etc.
Ouais, ouais, exactement.
Donc, finalement, tu sais tout faire. Tu fais de la poterie, de la peinture, de la couture.
La réponse est oui.
C'est beau. C'est beau. Finalement, vous complétez bien dans ce que
vous faites. Moi, je suis pas super manuelle. C'est pour ça que j'ai besoin d'elle, d'ailleurs. Mais
C'est magnifique. Et bah, du coup, c'était trop trouvé. Écoutez, maintenant qu'on a appris un peu à vous connaître, j'ai envie de vous mettre à l'épreuve avant qu'on passe aux choses sérieuses. Je vous présente donc le super mini-jeu de Élise, voilà, qui j'espère deviendra obligatoire bientôt. Je vous ai préparé un petit blind test de comédie musicale. Jusque-là, tout va bien. Évidemment, ça ne sera pas aussi simple. Pas de panique, tout va bien se passer. Pour qui me prenez-vous ? Bon, c'est l'émission d'avril, donc même si on est plus proche de la fin du mois que du 1er avril, l'heure est à la farce.
Ah.
Un petit malandrin, moi, a inversé les musiques. Ça sera un reverse blind test. Ça va être très court, hein. C'est 5 chansons. Celle qui gagne a le droit d'être la grande gagnante qui a tout gagné, voilà.
Ah, super.
Interpellez-moi quand vous avez la réponse et je vous donnerai la main. Est-ce que vous êtes prêts pour ce super reverse blind test ?
J'ai très peur, mais oui.
Oui.
Attention, ouvrez bien vos belles oreilles très compétentes de chanteuse. C'est parti pour la première musique. C'est Andrea qui a levé d'abord, dis-moi.
Le fantôme de l'opéra.
Eh oui, le fantôme de l'opéra. En vrai, elle est marrante. C'est la même chose dans les deux sens.
C'est fou. C'est un palindrome, la chanson.
Vraiment, exactement. Voilà, c'était la facile, cette fois.
On était presque en même temps. Ouais,
exactement. Ouais. On va passer à la deuxième. Celle-là, je l'aime bien aussi. Il y en a une, elle me fait mourir de rire en reverse. Voilà, c'est parti. Ouais, vas-y.
The Sound of Music.
Ouais, laquelle?
The Hills Are Alive.
Non.
Ah, mais non, c'est Favorite Things.
C'est Favorite Things, oui.
Pardon, mais j'ai triché, j'ai donné les... Ah, waouh!
C'est fou, hein!
Mais la voix, elle est reconnaissable.
Oui, en fait, j'ai reconnu que la voix, après,
j'ai
juste fait le talent.
J'ai juste reconnu Julie Andrews. C'est beau. Ok, on passe à la troisième chanson. Pour l'instant, 2 points pour Andrea. Tu étais presque, je suis désolée. Malheureusement, j'ai été obligée d'être fermée.
En plus, je me suis trompée, donc j'avais vraiment pour rien. C'est top.
Qu'est-ce que t'avais en tête?
Et passons au reste.
Ok, écoutez, celle-là, je l'ai mise parce que j'ai essayé de la mettre en reverse et ça m'a fait mourir de rire. C'est parti! Vas-y, Andrea encore.
Santa Fe.
Oui, c'est Santa Fe.
Oh,
c'est à mourir de rire. On se rend pas compte à quel point il crie en fait, ce monsieur.
Ah si, si, on se rend compte.
Bon, voilà, je tiens à vous annoncer qu'Andrea a déjà gagné, mais on va faire les deux dernières musiques pour l'amour du jeu.
Oh, elle a gagné sur les ténors qui craquent leurs notes.
Mais parce que, je suis un ténor incompris, on en a déjà parlé ensemble.
C'est vrai, on l'entend au beau timbre de ta voix grave.
Là, on est sûr de...
Qui nous susurre aux oreilles. Bon, celle-ci, Ange, je te le dis, t'as ta chance, d'accord?
Ok.
J'ai envie que tu prêtes attention à ce qui se passe,
okay,
d'accord?
Ok, ça marche.
Oh, pas de pression, bien sûr.
Aucune.
Oh waouh.
Vous l'avez pas?
J'ai un doute, mais.
J'ai un.
Vas-y, essaye. Qu'est-ce qui te vient?
Je sais pas, c'est compliqué.
Est-ce qu'on peut le repasser
une
fois?
Il y a quelque chose rythmiquement, j'essaie de faire parce que.
Je tiens à te dire. Est-ce que ce serait. Mais elle m'a aidé, elle m'a dit Adders. Est-ce que ce serait Yo Girl?
C'est tout à fait Yo Girl de Adders. Écoute, je vous accorde un demi-point chacune.
Ok.
Parce que là, c'était beau.
Fair enough.
Eh bravo, ça t'a gratté l'oreille.
Ouais, elle est très agréable, mais serre-moi la pince.
Voilà. Sachez, chers auditeurs, qu'elles se sont serrées la pince de manière un petit peu. Voilà. Peu d'affinité.
Ouais,
on va partir à la dernière chanson. Attention, c'est un classique, finalement. Que on aime bien et qu'on a tous chéri à un moment dans nos vies.
Ça c'est dans mon sens. J'ai dû me tromper dans l'audio.
Allez,
je tirais la salsa symphonie.
Oh là là, c'est moi.
Ah pardon, c'est cool à l'envers.
Tu l'aimes bien à l'envers.
Il y a un truc qui se passe à l'envers.
C'est bah, très psy trans.
Ouais, de ouf.
Il faut un gros kick, un gros drop.
Exactement. Ah. Bon bah du coup sur ce coup-là c'est moins un point pour moi car j'ai mis les choses dans le mauvais ordre. En tout cas félicitations à la gagnante qui est Andrea.
Merci.
Mais quelle surprise! Personne ne s'en serait douté qu'en faisant un quiz comédie musicale et en invitant Andrea, ce serait elle qui gagnait, bien sûr.
C'est pas vrai, je suis pas si forte en quiz.
Et félicitations à la grande perdante qui repart avec moins un point. Bravo,
Alice!
Hey, c'est
merci.
Pas très radio.
Je pense que c'est même plus dur de faire moins un point, donc bravo. Ouais.
Bravo, Alice. Merci pour tout, c'était super. Je pense, mes chers amis, qu'il est grand temps de faire une petite pause. Mmh. Et nos invités nous ont fait l'honneur de nous ramener une chanson.
Eh ouais.
Andrea, dis-moi, qu'est-ce qu'on s'écoute?
Bon, on va écouter une maquette du spectacle, c'est promis, par Simon Casas, qui joue le rôle du saboteur. Saboteur, c'est la petite voix dans la tête qui nous dit qu'on n'est pas assez bien, qu'on va pas réussir, que les autres, c'est mieux. Et lui, il va embêter nos deux personnages principaux pendant tout le long du spectacle. Et il a une chanson éponyme qui s'appelle Le Saboteur. On a enregistré une petite maquette exprès pour vous. Elle est postée nulle part,
wow.
On fait
mais une exclusivité.
Du coup, sur cet enregistrement, il n'y a que Simon et Léa qui sont eux aussi frères et sœurs. Donc, c'est toute le inception de la chose. Et puis voilà, on est content de vous faire découvrir la chanson de notre grand méchant, Le Saboteur, par Simon.
Ouais, merci beaucoup. Allez, on s'écoute ça tout de suite.
Slime, un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
Ah, comme c'est mignon, décrépit. D'allure bancale, un taudis. T'appelles ça une cabane délabrée. Juste bon pour pièce, il faudrait abandonner la quête. Non mais vraiment, vraiment. Bien trop de travail décourageant. Ça peut que se passer mal. Ridicule. Tu l'aides et puis tu la laisses. Difficile de tenir sa promesse. Dans tes pensées noires, cède à la bagarre du bien et du mal. Tremble et nourris ta peur de ton droit au bonheur. C'est un régal pour le saboteur. Le saboteur
Et ouais, c'est moi. Quel dommage, mieux vaut laisser tomber, se tromper, c'est pire que de ne pas jouer. L'avantage, c'est qu'il est encore temps d'abdiquer et de changer vos plans. Ouais, parce que là, c'est pas gagné. Et je dis ça pour aider. J'aimais du matin au lever, tard le soir. Caché derrière ton oreiller, sans crier gare. Plonge dans tes pensées noires, cède à la bagarre, du bien et du mal. Nourris ta peur de ton droit au bonheur. C'est un régal pour le saboteur. La 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 la. Pour le saboteur.
Slime, un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
Et c'était le saboteur. Merci encore, merci Andrea, merci Rosalie de nous accueillir dans votre petit univers. C'est trop beau, la chanson elle est trop belle. J'aurais aimé écrire ça sincèrement.
Et encore, vous n'avez pas tout.
Et oui, pour tout voir, il faudra se rendre le 29 juin au Théâtre Saint-Georges. On se refait la promo tout à l'heure.
Mais là, du coup, bon, on vous a découvert, on a passé, comment dire, un petit peu de temps ensemble. Est-ce qu'on pourrait entrer un petit peu plus dans le vif du sujet? Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus? Bon, on a découvert le saboteur, mais est-ce qu'on peut en découvrir davantage sur ses promis?
Mais c'est avec plaisir, on est là pour ça, on est contente. C'est promis, c'est une histoire qui raconte une semaine particulière entre deux sœurs qui ont un gros écart d'âge. Elles ont 10 ans d'écart. On a Suzanne qui a 18 ans, sa petite sœur Colette qui a 8 ans. Et en fait, c'est l'été, c'est le dernier été dans la maison de famille de Suzanne. Elle doit partir pour aller faire ses études. Et le sujet de la séparation devient un petit peu difficile, notamment pour Colette, la petite sœur, qui voit sa seconde maman et sa grande sœur partir du jour au lendemain et qu'elle va se retrouver toute seule à la maison. Et donc la grande sœur décide de lui suggérer de faire une liste, une petite bucket list finalement, de choses à accomplir dans la dernière semaine qu'elles ont, parce qu'elle va lui consacrer tout son temps. Et globalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va vivre cette dernière semaine-là avec les deux sœurs. Il y a évidemment des points qui ne sont pas réalisables sur cette liste. Donc Suzanne va devoir faire preuve d'imagination pour aller au bout. Et on a intégré une notion de réalisme magique dans le spectacle, c'est-à-dire que l'ensemble, joué par tous les autres enfants, incarne des concepts, des émotions, mais pas forcément des personnages comme on pourrait l'entendre. On va avoir l'envie, qui est un personnage, la rumeur, qui est un personnage, la nuit étoilée de Van Gogh est un personnage.
Le saboteur aussi, qu'on a entendu, bien sûr.
Le saboteur est un personnage, le roi procrastination, le général deuil, il va se passer beaucoup de choses. Et pourquoi j'ai écrit une histoire là-dessus? Et pourquoi on en est là aujourd'hui? C'est parce que moi, j'ai 14 ans d'écart avec ma plus petite sœur, qui est juste là aujourd'hui, Rosalie.
Bonjour.
Et cette séparation, elle a vécu et elle a été difficile. Et voilà, moi je suis l'aînée d'une famille nombreuse, donc j'ai vu tout le monde naître et je suis partie la première. Donc, process, franchement, pas tout le temps évident. J'ai la chance d'avoir un noyau familial hyper uni et hyper aimant, donc on se revoit quand on peut, slash veut. Mais quand moi je pars, Rosalie a 6 ans.
On a 14 ans d'écart, tu pars à 19 ans.
Je pars à 20 ans, ouais.
Tu pars à 20 ans, donc ouais.
Voilà, donc du coup, ça a été quelque chose. Et moi, je pense que j'ai pas eu le temps de processer ce truc-là parce que j'étais contente de partir. J'étais grande, j'avais envie de prendre mon indépendance. Donc, je pense que j'ai pas été beaucoup là les premiers mois parce que ça me faisait plaisir de mettre à ce moment-là. J'en avais besoin de mettre cette distance. Je suis aussi très proche de mon noyau familial féminin, notamment. On est vraiment très, très soudés. Donc là, c'était très nouveau pour moi, cette liberté-là. Et du coup, je pense qu'ils ont dû processer un peu de leur côté et moi, processer bien plus tard. Et ouais, je me suis retrouvée à travailler avec un super petit groupe qui s'appelle la Broadway Factory, qui est mon groupe d'enfants avec lequel je travaille le mercredi vie via une école Montessori dans le 17e. Et en fait, Audrey est la directrice de l'école. À la base, on a monté un groupe, un cours de danse. À la base, c'était censé être 100% la danse contemporaine. Après, on a pris les enfants sur audition pour que ça matche le niveau. C'est allé super bien. Les enfants étaient à fond. Je me suis dit, trop dommage de pas écrire un spectacle. Il a fallu se creuser la tête de écrire sur quoi et l'emmener où. Et j'ai écrit ça en m'inspirant de ma vie. C'est la première fois que j'écris un truc en m'inspirant de ma vie pour les enfants. D'habitude, tu fais jamais ça. Et quand j'ai fini de l'écrire, je l'ai coécrit avec mon amoureux, Jérémy Veluire, qui est spécialiste dans le réalisme magique. Il est improvisateur, il connaît très très bien ce domaine-là, donc il a pu coécrire avec moi. Et là, Audrey, j'ai dit, écoute Audrey, j'ai quelque chose, je pense qu'on devrait aller plus loin que le spectacle de fin d'année. Entre le niveau des enfants et la qualité du spectacle, je pense qu'on peut faire quelque chose. Et on se retrouve au Théâtre Saint-Georges. Donc voilà, donc c'est ça qui s'est passé.
C'est une belle consécration quand même. Hein.
Ouais,
assez fou.
Surtout pour une histoire du coup qui te tient à cœur, que la première fois que tu vas avoir une histoire qui parle un peu de toi sur scène, et en plus que tu fais du coup avec ta petite sœur qui est finalement la protagoniste aussi de.
C'est la Colette originelle finalement, comment on peut l'appeler.
De OG Colette finalement.
C'est ça.
Et du coup, est-ce que cette histoire, en fait, cette thématique qui est quand même assez singulière, parce que c'est vrai qu'avoir autant d'écart avec sa petite sœur, c'est rare, et du coup, ce thème de la séparation comme ça, on n'en parle pas forcément, c'est un truc que tu avais en tête pour écrire un spectacle, ou ça t'est venu vraiment en réfléchissant avec ce groupe d'enfants, tu t'es dit, ah ouais, je pense que je peux écrire un truc là-dessus, ou c'est...
Je pense que d'abord, il y a eu le process de, ah, est-ce qu'on fait un gala comme prévu, ou est-ce qu'on écrit un spectacle, parce que le niveau des enfants était particulièrement bon et sur les trois disciplines. Et après, il y a se poser et écrire, et me vient singulièrement ma plus grande, entre guillemets, et ma plus jeune, sont deux petites blondes dans le groupe, et je sais pas pourquoi, mais tout de suite je les visualise en sœurs. Je me dis, ah tiens, ça pourrait être un binôme. Et à partir du moment où le mot sœur a tapé dans ma tête, je me suis dit, ah purée, ce serait peut-être cool d'écrire un truc sur ça, sur le lien que je peux avoir avec mes sœurs, parce que là je parle de Rosalie, mais j'ai une autre sœur, Mathilde, avec qui j'ai 9 ans d'écart, hein, qui est déjà donc un gros écart. J'ai évidemment des frères que j'aime et que j'embrasse, mais c'est pas le sujet.
Plus tard. Ne parlons pas des hommes sur cette émission.
Plus tard.
Aujourd'hui, on est entre girls.
Plus tard. Mais ouais, du coup, les sœurs, ça m'a cliqué. Et après, je me suis dit, comment intégrer les autres enfants? Parce que moi, j'écris des spectacles sur mesure par rapport au groupe que j'ai. Ça commence à être compliqué de justifier qu'il n'y a que des enfants sur scène en termes d'histoire. Je l'ai fait, le spectacle fête d'anniversaire, orphelin, école. J'ai fait Peter Pan, comme ça c'était tous des gosses. J'ai fait des elfes, comme ça aussi ça pouvait être tous des enfants. Au bout d'un moment, l'idée créative, elle commence à être difficile à justifier et j'ai pas envie de me répéter. Et c'est là où je pense au réalisme magique, où je me dis, mais en fait, si on suit tout le process de ces deux sœurs et de cette séparation, parce que, bon, spoiler alert, finalement, à la fin, est-ce que c'est plus dur pour Colette ou pour Suzanne au moment du départ? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qui a process? Qui a moins process? Je me suis dit, explorer les émotions derrière et toutes ces petites contraintes, ça pourrait être super.
Alors moi, j'ai juste une question. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce réalisme magique, comme tu dis? C'est un terme qui m'intrigue et j'ai envie de savoir d'où ça vient.
Le réalisme magique, c'est d'intégrer un élément qui pourrait paraître fantastique pour n'importe qui, c'est-à-dire, par exemple, typiquement, si je prends un crayon ne parle pas, on est tous d'accord avec ça, à part si vous avez des crayons qui... Mince.
Le crayon qui parle.
Okay. Mince. Alors, ben justement, il faut que tu viennes voir le spectacle. On a juste un crayon qui part.
Ah, let's go.
Non, mais en gros, globalement, si vous vous retrouvez, imaginez, vous avez une scène de film, il y a un personnage qui a un crayon dans la main, qui s'apprête à faire un dessin et qui se met à avoir une conversation avec ce crayon. On va estimer dans le réalisme magique que ce n'est que la projection de ce que le crayon représente et quelle relation il a avec l'activité qu'est ce crayon, et non pas je suis un crayon qui parle et qui te parle. Donc par exemple, typiquement, quand on intègre les œuvres, parce qu'on a deux œuvres qui sont des personnages dans notre spectacle, donc La Nuit étoilée de Van Gogh et La jeune fille à la perle de Vermeer, et pour le coup, bah, l'interaction entre les deux sœurs et ces œuvres-là, c'est presque plus mettre en dialogue une contemplation introspective, voilà, tout à fait. Sauf que bah, le public, il se ferait un peu chier si c'était juste des personnages qui se regardent dans les yeux pendant très longtemps. Donc, du coup, voilà. Et c'est pour ça qu'ils prennent la parole. C'est pour aider à comprendre ces concepts-là, tout simplement.
Ok. Bah, c'est hyper intéressant. C'est vrai que j'avais jamais entendu ce terme comme ça. Et en vrai, ça a l'air... Enfin, c'est un truc qu'on connaît, mais sur lequel on n'a pas forcément les mots. Et c'est cool de l'intégrer dans ton spectacle. Moi, j'avais du coup une petite question. Du coup, tu écris tu composes, oui. tu fais tout. Est-ce que tu fais ça en un an pour ton groupe, sur ta fin d'année, comme ça?
La réponse est oui, à l'heure actuelle.
La réponse est waouh.
La réponse est oui, parce que j'aime bien écrire sur mesure. Et comme pour l'instant, j'écris que pour des groupes que j'ai, c'est-à-dire que pour l'instant, je suis pas venue avec un spectacle que j'ai d'abord écrit moi, puis aller caster des gens. Ça va venir, mais pour l'instant, on en est là.
On attend.
Stay tuned.
Bien sûr. Ce sera avec des adultes, ça. Donc, voilà. Là, c'était plus l'occasion qui a mené à là où on en est. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin d'attendre d'avoir mes listes définitives, puisqu'après, je vais écrire sur mesure pour eux. Je vais écrire un rôle pour chacun de mes élèves, et c'est pareil avec les adultes, hein, pour mes cours comédie musicale adulte, où je vais essayer de les mettre en valeur le plus possible en leur apportant une petite difficulté quand même, parce qu'il faut apprendre. Et du coup, bah ouais, généralement, j'écris le spectacle pendant la pause de la Toussaint.
Waouh, puisqu'on peut faire ça apparemment.
Voilà.
Deux semaines a priori.
Alors attention, on présente pas un spectacle de 2h40, hein, c'est promis, on présente un spectacle d'1h15, donc
c'est bien déjà.
C'est raisonnable. C'est
oui,
déjà.
Mais bon, du coup, c'est déjà la moitié moins de travail en termes de temps à tenir. Donc c'est pour ça que c'est faisable aussi en si petite partie, et puis il y a un peu d'expérience aussi. Et bon, là, c'est de la composition, donc ça prend plus de temps. Par chance, comme je coécrivais avec Jérémy, c'est lui qui a travaillé sur le livret, sur plein de choses à la base, enfin, notamment sur surtout déjà l'histoire et la trame de base, pendant que moi je composais les chansons, et après on s'est rejoints pour écrire le livret ensemble. Et ouais, je dirais qu'on a mis 2 semaines, mais pour être très honnête avec vous, on s'est presque arrêté de travailler à ce moment-là. On est rentré dans une furie.
Bien sûr.
Il y a eu des cours qu'on sautait parce qu'il fallait vraiment finir. C'était pour hier, quoi. Donc tout s'est décidé au dernier moment. Donc voilà où on en est. Mais oui, sinon, j'écris pour l'année. Et d'ailleurs, il y a toujours une très grande frustration de ne jouer qu'une fois.
C'est un gros sujet aussi.
C'est pour ça que... Ouais, c'est ça.
C'est un très gros sujet.
C'est ça.
Abandonner son spectacle. Quand on a bossé sur cette émission avec Élise, on a parlé de postpartum de spectacle.
Mais très clairement.
C'est vraiment... On a monté un bébé pendant presque une année. On accouche de ce bébé. Et ensuite, c'est terminé.
Mais oui.
C'est terrifiant.
Et ce qui est pire encore, c'est que du coup, comme moi j'écris sur mesure, j'arrive pas à réutiliser mes spectacles avec d'autres gens. Parce que j'ai imaginé les spectacles avec des personnes en particulier, quoi. Tu vois? Donc du coup, voilà. Bon là, peut-être qu'on rejoue en septembre, alors c'est l'avantage. Ça.
On a tellement d'exclus sur cette émission, c'est dingue.
Peut-être qu'il y aura une nouvelle date au Théâtre Saint-Georges en septembre, on sait pas, tu vois. Peut-être ça arrivera un peu plus tard.
Bah trop cool, mais justement ce genre de truc, ce genre d'émotions fortes, genre bah voilà, la fin d'un spectacle ou même toute la préparation, les dernières semaines qui sont hyper intenses, déjà voilà, on a été sur des spectacles, nous en tant qu'adultes c'est dur à gérer. Comment tu gères ça avec des enfants? Comment tu réussis à te placer en pédagogue et en même temps voilà, t'es quand même leur metteuse en scène, t'es quand même celle qui doit donner les directives et faire en sorte que le spectacle va jusqu'au bout, parce que c'est un vrai sujet, le travail avec des enfants, aussi motivés soient-ils, bah ça reste des petits êtres pleins de délicatesse finalement.
Et si je peux être très transparente avec vous, en plus je suis entourée d'élèves aujourd'hui, pour être très honnête avec vous, un enfant 100 fois plus discipliné qu'un adulte est beaucoup plus facile de travailler avec des enfants qu'avec des
adultes. Mais c'est sûr.
Donc c'est
même
un
pas.
Peu une non-question. Après, là où c'est un petit peu plus difficile, c'est par rapport à les rendre autonomes sur le travail. Des fois, ça peut être un peu plus difficile selon les foyers parce qu'on gère pas ce qui se passe à la maison. Là où mes adultes, ils vont prendre des initiatives un peu plus facilement de se rejoindre en dehors des cours pour faire des répètes ou quoi. Là, les enfants peuvent pas trop le faire. Mais très honnêtement, j'ai des enfants. Alors déjà, moi, j'ai un cadre. Je suis quand même quelqu'un qui est connu pour être un peu strict, mais je dirais dans la justesse, parce que du coup, je suis chiante les premiers trimestres pour après pouvoir être complètement libre avec mes élèves. La majorité des élèves de la Brodé Factory que j'ai cette année, je les connais depuis 4-5 ans. Donc, pour certains d'entre eux, la moitié de leur vie.
Oh, c'est terrible,
la réalisation.
Voilà, je vous le fais pour la réal.
Est-ce que je peux juste te couper pour te demander, c'est quoi la tranche d'âge des enfants avec qui tu travailles?
Là, sur la Bordeaux Factory, on a une moyenne d'âge de 10 ans et demi, 11 ans, okay. À peu près. Et voilà. Et donc, je prends un exemple qui est Léa, qui a eu 10 ans au début du mois d'avril. Moi, j'ai eu Léa à 6 ans en première année de cours. Donc, forcément, oui, je suis leur prof, mais on a aussi ce lien où ils se dépassent pour eux, ils se dépassent pour moi. Ils sont hyper reconnaissants. Ils arrêtent pas de dire merci, André, d'avoir fait tout ça. Mais même Rosalie, qui est venue m'aider aussi beaucoup sur des spectacles pour le jour J, faire de la régie plateau, de l'habillage en coulisses. Je pense que la première fois que je lui ai dit tu vas venir, tu vas gérer une bande de gosses en coulisses pendant que moi je serai cachée en régie, ça a dû la faire flipper. Je sais pas c'est quoi son expérience avec les enfants avec lesquels je travaille particulièrement, mais il me semble que c'est plutôt chill.
Bah, déjà, une chose qui est... J'avais jamais travaillé avec des enfants avant d'arriver à aider Andrea, en fait, simplement. Et je me suis vite rendu compte que ce groupe était particulièrement discipliné.
Okay.
Donc déjà, c'est une chose qui rend ça très simple. Et en fait, ils sont mais adorables. Enfin, c'est-à-dire qu'on a créé une relation très vite. Par exemple, Simon et Léa, que j'ai eu l'occasion de voir cette semaine, j'étais trop contente de les revoir. Donc il y a aussi ce truc-là qui fait que c'est assez naturel. Je pense que créer une relation avec les élèves, ça aide aussi, quoi, dans cette situation.
Mais clairement, de toute façon, ça c'est pareil dans tout le professorat de façon générale. Je pense que tous les professeurs vont être d'accord avec moi. Maintenant, faut-il encore avoir le temps et les moyens de pouvoir le faire correctement, bien sûr. Et ça, c'est pas la faute des professeurs en particulier. Mais en tout cas, plus t'as une relation avec les enfants, plus une relation de confiance, mais dans les deux sens. Parce que moi, je leur fais confiance aussi et c'est pour ça que ça marche, quoi. Mais c'est vrai que souvent, quand je dis je fais un spectacle avec des enfants, les gens s'attendent à un spectacle de kermesse et je suis un peu obligée de dire « Mais non, je vous jure, ils sont forts !»
En fait, un autre truc, ça va paraître un peu étrange de dire ça, mais il ne faut pas infantiliser les enfants. Et c'est ça qu'on voit que c'est magique, en fait. C'est en parlant pas à des enfants comme si c'était des adultes, mais en moins bien, qu'on se rend compte que les enfants, en fait, c'est trop bien. Ça peut marcher aussi bien, quoi.
Ça, c'est hyper vrai. Moi aussi, j'ai travaillé avec des enfants. Forcément, j'ai enseigné à des enfants. C'est la première réalisation. J'ai commencé, en fait, à donner des cours de chant avec les enfants. La première réalisation qui m'est venue, c'est... Mais en fait, un enfant, il comprend parfaitement ce que je lui raconte. C'est limite, c'est même plus limpide parfois qu'avec certains adultes.
Mais oui, les adultes, ils amènent un bagage. Moi, je le vois en cours de chant. Un adulte, il vient avec ses complexes, ses traumas.
Et ce regard sur lui-même.
Et puis, on est aussi façonné par la société. On nous apprend à pas faire trop de bruit, à être discret. Nous, en cours de chant, on dit vas-y, donne tout. C'est pas forcément évident de sortir de son quotidien et de faire ça. Les enfants, c'est très organique pour eux. Déjà, ils sont à l'école tous les jours, toute la journée. Donc, apprendre leur éponge, elle est très efficace. Ils apprennent très, très vite. Moi, j'ai eu des années où j'ai des élèves très motivée, notamment une élève qui s'appelle Inès, qui n'est plus avec nous cette année, mais qui a fait de nombreuses années, qui me suppliait d'avoir des gros rôles en me disant « Andrea, je travaillerai jusqu'à 2h du matin tous les soirs. » Mais la gamine avait genre 9-10 ans, tu vois. Genre tellement ils ont envie, ils sont à fond, quoi. Donc non, c'est plutôt très facile. Et rien ne vous donnera autant de love qu'un groupe d'enfants en plus, donc c'est hyper valorisant. Pour être très honnête, parce que ils sont trop contents et du coup tu te dis ah je me suis levée pour ça et on va faire un super truc grâce à ça et c'est trop bien quoi.
Oui, peut-être que c'est plus facile aussi d'adopter du coup cette posture de professeur envers un enfant qu'envers un adulte qui arrive, qui va avoir peut-être le même âge que toi, peut-être même je pense à Ange qui donne des cours à des personnes plus âgées, notamment
ils sont tous plus âgés que moi.
Et ça peut être un peu syndrome de l'imposteur de dire il faut que j'arrive à me placer en tant que professeur, de j'ai des choses à t'apprendre et faut me faire confiance, alors qu'un enfant aura peut-être plus tendance à te donner sa confiance en toi parce que t'es l'adulte et que tu sais ce que tu fais, quoi.
Et un adulte a plus d'attentes. Il a des attentes quand il vient en cours, quand il vient en coaching. Un enfant, il est là. Il attend qu'on lui dise « let's go ». Et bon, après, pour être très honnête avec vous, la majorité des élèves de mon groupe sont scolarisés dans une école Montessori. On aura beau dire tout ce qu'on veut en termes d'indépendance et d'autonomie et presque de maturité émotionnelle, c'est assez dingue, hein. Ils sont très en avance par rapport à d'autres enfants, forcément, ils sont dans un contexte hyper cool, quoi, pour eux. Donc ça leur permet de grandir d'une autre façon aussi. Mais, et en plus, j'ai des petits génies. Simon, qu'on a écouté tout à l'heure, le saboteur, a également travaillé sur tous les arrangements du spectacle.
Pardon.
C'est lui qui, avec son père et Cyril, professeur de guitare dans la même école, les guitaristes qui ont fait la musique du film Frère. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez suivi un film Frère qui sortait au cinéma l'année dernière, il y a 2 ans. Et donc, Simon travaille sur les arrangements. Il fait d'ailleurs de la guitare dans le spectacle.
Mais c'est fou. Mais j'en apprends des vertes et des pas mûres.
Donc, ce n'est pas qu'un spectacle de kermesse. Prenez vos places.
Au théâtre Saint-Georges, le 29 juin.
À 20h.
On se doute que si tu arrives à emmener ce spectacle-là dans un théâtre, c'est qu'il y a quand même quelque chose de solide. Et je me dis aussi, quand t'arrives avec ton spectacle où t'as un groupe d'enfants, tu viens d'une école, d'un contexte d'une école, comment tu te dis, enfin, comment t'arrives à aller justement à emmener ce spectacle jusque sur scène, quoi?
Là, pour être là, la chance qu'on a eue, c'est que Audrey, donc directrice de l'école Montessori avec laquelle je travaille, avec la Broderie Factory, tout ça, elle connaît des gens au Théâtre Saint-Georges. Okay. Très honnêtement, sinon on aurait pris plus petit. Mais ne serait-ce mieux. Que pour remplir. Mais du coup, hein, moi, j'ai du mal à réseauter. J'ai du mal à utiliser mon réseau. J'ai un bon réseau, mais j'ai du mal à demander de l'aide ou suggérer des choses. Et là, cette année, je me suis dit, on y va all out. Je demande jamais rien. On essaye de pousser, quoi. Mais après, ils nous ont fait confiance aussi parce que le projet les a intéressés. Si on leur avait vendu autre chose, je pense qu'on aurait pris un refoule. Mais par chance, c'est ce qui nous a ouvert la porte. Donc, on avait une porte ouverte. Je peux vous dire que c'est cool dans le milieu.
Ça t'enlève un petit peu de stress peut-être et c'est une expérience de fou pour tes enfants. Du coup, je pense qu'ils vont avoir leur premier pas sur une scène quoi.
Une vraie scène, une vraie salle parisienne. Une vraie salle. C'est quand même énorme.
Ouais, c'est une vraie salle. Ouais, c'est assez fou. Je pense qu'eux, ils ont du mal à réaliser. Moi aussi, mais moins qu'eux parce que j'y suis allée, j'ai visité, j'ai rencontré l'équipe et tout. Après, je pense que... Ils vont être intimidés un petit peu. Je pense que quand ils vont arriver au Théâtre Saint-Georges, ça va faire...
Mais ils vont tellement kiffer.
Mais ouais, non, franchement, ils ont trop hâte. Ils ont trop hâte.
Ça va être beau. Et moi, j'ai une autre petite question sur ce genre de truc. Comment, justement, quand tu travailles avec, du coup, avec une école, tout ce qui est la question des coûts, de ce que ça va coûter, les costumes, etc. S'il y a d'autres trucs, je sais pas si tes avis sont microtés pour, sur scène. Oui, oh là là.
Alors, on a choisi de pas le faire, mais vous verrez, on prend en ambiance sur ses promis parce qu'il s'avère que l'acoustique du Théâtre Saint-Georges le permet. Donc, on s'est libéré de ça. Et que la régie son et la régie lumière n'est pas au même endroit dans cette salle. Et j'ai besoin d'être à ces deux endroits si on microte. Et donc, comme je peux pas me couper en deux, on a privilégié la lumière puisqu'on peut prendre le son à l'ambiance. Et j'ai oublié la question.
Les coûts, comment tu gères les coûts? Est-ce que c'est bien l'école? Voilà. Est-ce que
donc, en gros, globalement, là, on est auto-financé. C'est Montessori qui produit le spectacle. Donc, c'est Montessori qui avance les coûts. C'est eux qui ont avancé les coûts du staff parce qu'évidemment, on rémunère l'équipe qui va travailler au Théâtre Saint-Georges le jour du spectacle et également les quelques accessoires et costumes qu'il faudra. Par chance, c'est un spectacle assez minimaliste par rapport à ça. Et du coup, Rosalie fait la customisation à la peinture des costumes en ce moment, plus les accessoires. Et je travaille aussi avec une autre costumière qui s'appelle Capucine, qui, elle, conceptionne et confectionne le costume du saboteur, qui du coup est un petit peu à part, un petit peu particulier. Et on fait du troc pour ça, en fait, tout simplement. Ça, c'est pareil pour les coûts. En fait, moi, je vais lui donner des cours de chant et elle fait ça en échange. On essaye de faire au maximum parce que là, c'est le premier projet ever, donc faut tout sortir de la poche. Moi, je peux pas... à l'heure actuelle, alors que c'était pas prévu, en plus,
surtout, oui.
Sortir 3 000 euros, quoi. C'est pas possible.
Forcément, mais c'est génial, ça, de se dire, voilà, faire du petit troc sur ce genre de choses, c'est exceptionnel.
Bah, on s'entraide, ouais.
C'est un échange de bons procédés.
J'ai une autre élève à moi qui est illustratrice, qui a travaillé sur une illustration, qu'on va détourner en stickers pour vendre des goodies. Pareil, on a troqué. Voilà, on travaille ensemble là-dessus.
Mes amis, c'était un plaisir de parler de ces promis. Je pense que c'est l'heure de faire notre deuxième petite pause musicale. Oh, et qui dit deuxième pause musicale dit on découvre un nouveau morceau, je crois.
Oui, tout à fait. C'est Cher Moi. Oh. Cher Moi, c'est déjà sur... on l'a sorti sur Instagram déjà. Donc, yes. C'est pas une excuse cette fois-ci, je suis désolée.
on en a eu une, c'est déjà pas mal.
Voilà. Oui. Cher Moi, c'est le duo de deux personnages donc, qui sont des lettres. Les lettres sont les personnages. À un moment donné, les deux sœurs enterrent une capsule temporelle dans leur jardin qu'elles vont réouvrir dans 10 ans. Et le dernier truc qu'elles veulent mettre dedans, c'est des lettres à elles-mêmes qu'elles devront lire dans 10 ans, elle ouvrir chacune, se retrouver là, une promesse dans la promesse, d'une certaine façon. Vous avez bien compris le délire. Et voilà. Alors là, encore une fois, c'est une version de maquette puisque c'est moi qui interprète la grande sœur dans cette version. Mais sur scène, ce n'est pas moi, c'est Cérine Loucal qui joue la lettre de Suzanne et non pas moi. Mais là, vous aurez moi. Puisque,
mais venez au Théâtre Saint-Georges pour découvrir la version
voilà,
originale.
Voilà, comme ça, vous avez que les demi-versions.
Pas surtout. Hein.
Et pour l'instant, profitez bien de la belle voix d'Andrea.
Slime, un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
Cher moi, si j'écris ces mots sur un petit bout de papier, c'est qu'il y a des choses que je ne veux pas oublier, comme ces milliers de fois où l'on fabriquait ensemble tous ces moments de joie et ces fous rires d'un instant.
Quand tu liras ces mots,
je l'espère, pas trop tôt, même si c'est ça la vie. Et même dans 10 ans, je me souviendrai encore de cette liste d'enfants devenus chasse au trésor. Toi qui connais le futur, toi qui sais tout de moi, promets-moi que le plus dur,
le plan est dressé, ce sont des casques de coche. Je me vois exploratrice, astronaute ou magicienne, aller au bal de rentrée avec la robe de mes rêves.
Ai-je fait une erreur en quittant la maison? Est-ce qu'on a toujours peur du monde et ses raisons? Plongé dans c'est tout derrière moi, reprendre dès le début, seulement ai-je fait le bon choix. Toi qui connais le futur,
toi qui connais le futur,
toi qui sais tout de moi,
de moi,
promets-moi que le plus dur,
Slime, un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
Et c'était Cher Moi qu'on pourra retrouver le 29 juin au Théâtre Saint-Georges, si vous avez bien suivi. Je crois qu'Élise avait quelque chose à nous raconter.
Exactement, je me permets une petite divagation pour parler un petit peu d'actu, mais... de comédie musicale, parce que une très grande nouvelle est tombée. Oh oui, une grande nouvelle qui me fait très très plaisir.
Je sais déjà de quoi
oui,
tu vas parler.
Je sais, tu sais, vous savez, nous savons, je l'ai mis oui. en story. Il y a de nombreuses émissions, je vous ai parlé d'Epic, une comédie musicale que j'adore.
J'ai jamais entendu.
Et une grande nouvelle est tombée puisque Epic va être adapté en film d'animation grâce à Jerry Bruckheimer. I guess, producteur derrière 2-3 petits trucs, genre Pirates des Caraïbes, par exemple. Donc voilà, je vous ai parlé d'Epic rapidement, mais pour vous remettre dans le contexte, c'est une comédie musicale qui est une réécriture slash réadaptation de l'Odyssée d'Homère, et qui est franchement super, mais ça, ce n'est que mon avis. Et en fait, c'est une comédie musicale qui n'a pas de version sur scène, puisqu'en fait, le monsieur qui a composé ça, qui s'appelle Jorge Rivera Herranz, oui, je t'ôte les mots de la bouche, postait simplement son processus de création et son avancée de projet sur TikTok, parce qu'en fait j'ai appris que c'était sa thèse de fin d'études de base.
Epic. Tout à fait.
Et voilà, et évidemment si on en parle et que ça devient un film d'animation, c'est qu'il y a eu un engouement monstre, et à raison. Et depuis que je vous en ai parlé, le projet s'est conclu, et il est devenu encore plus viral, puisqu'il y a des sons qui ont percé, qui sont devenus des trends, par exemple ça.
I will fall in love with you.
Et il y a des centaines d'animations fan-made, une fanbase monstrueuse, et maintenant, bah un film quoi. C'est dingue quand même que un mec qui écrit un truc dans sa chambre pour sa thèse de musique, et bah ça devienne un film d'animation, c'est fou. Et pour moi, c'est une news immense parce que déjà j'adore Epic, mais aussi parce que ça veut dire qu'on prend ce genre de projet au sérieux. Et ça, c'est génial, des projets indépendants comme ça. Alors on avait bien eu des petits trucs genre le musical non officiel de Bridgerton, qui se souvient, qui avait tourné il y a quelques années, mais Netflix avait vraiment pas kiffé, il y a eu des histoires de procès, et ça c'est vite tombé à l'eau. Mais là, on a une œuvre originale, enfin originale, c'est l'Odyssée d'Homère, mais à ce point-là, vu la vieillesse du livre, c'est une œuvre originale en vrai de vrai.
Ça marche comme ça, je savais pas.
Non, mais le domaine public, ça doit être ça, je pense.
C'est le domaine public, tout à fait.
Non, mais c'est une réadaptation, enfin, c'est très libre quand même comme réadaptation. Merci, si, n'écoutez pas Epic pour faire vos. Pour réviser vos cours.
Historical accurate, pas du tout.
Ne faites pas ça. Et en fait, ça, c'est une très bonne nouvelle pour les auteurs indépendants, hein, notamment ceux que j'ai en face de moi, qui on peut se dire que notre spectacle avec de la com et un petit coup de chance, et ben en fait, peut-être qu'on peut les amener hyper loin. Alors là, c'est une fin immense pour Epic, c'est tout ce qu'on pouvait lui souhaiter, parce que c'est un truc qui est complètement irréalisable sur scène, parce qu'il y a des tonnes de personnages, et de l'eau, des bateaux, des combats, et des éclairs. Mais là, enfin, de le voir en film d'animation, c'est la meilleure fin et la meilleure conclusion qu'on pouvait donner à Epic. Et d'ailleurs, Rory Verheyen-Rance est déjà sur son prochain projet, qui s'appelle Ilium, qui va parler plutôt de la guerre de Troie, et avec tout le soutien qu'il a, voilà, on sait que maintenant il y a même des contacts avec Lin-Manuel Miranda, etc. Et bah, ça veut dire qu'on va sûrement le voir sur scène, Ilium. Et que bah y a des gens qui écrivent des choses juste pour le kiff, qui sont pas dans cette grande machine des auteurs de Broadway, du capitalisme finalement, qui sont juste là pour faire des choses qui leur tiennent à cœur et qui peuvent l'emmener loin. Et ça, c'est une belle nouvelle. Je sais pas ce que vous en pensez.
Mais ils inspirent même d'autres personnes, parce que je vois de plus en plus naître des comptes TikTok de j'écris une comédie musicale, je filme le process. Pour venir sur Rory, il y a aussi le talent, quoi. C'est-à-dire
oui,
que
bah bien sûr.
Il s'avère qu'on est tombé sur un génie, comme on n'en fait pas beaucoup. C'est-à-dire que le mec tout seul est capable d'entendre des choses très complexes et de pas tomber dans une spirale. Je sais pas comment il a fait pour pas devenir fou, mais je pense ça de plein d'autres auteurs, compositeurs de façon générale. Donc oui, c'est assez dingue. Alors oui, il y a un peu un enchaînement de miracles pour en arriver là, parce que je pense que c'est quand même plus laborieux que ça. Là, il y a eu un peu de chance, comme tu l'as dit, Élise. Le talent, la chance, la plateforme, aujourd'hui, TikTok qui amène très facilement vers le buzz. Et du coup, bah, je pense que quand c'est bien, ça met tout le monde d'accord, et c'est ce qui s'est passé au départ, quoi.
Est-ce que je peux me permettre, c'est aussi pour mon propre fil conducteur à moi, mais est-ce que ce serait pas la suite logique de la génération Tumblr, finalement, qui devient progressivement la génération TikTok?
Oui, fallait je qu'elle fais ça mentionne pour le Tumblr. Ouais. Il fallait qu'elle mentionne Tumblr. Non, mais en vrai, c'est vrai que là, d'un coup, il y a ce grand engouement, et on voit, bah, c'est peut-être un peu aussi épique, le bébé des comédies musicales qui ont pris de l'ampleur sur Internet, bah, Heathers, Hamilton, même Legally Blonde avec They're Right There, qui était un même gay or European. Donc c'est peut-être un peu, genre, c'est peut-être un peu voilà ce que ça devient, et là ça prend des dimensions absolument immenses. Alors ouais, ça sera pas le cas pour tous ceux qui posteront des comédies musicales sur TikTok,
mais ça vaut le coup de le faire. Du coup,
ça vaut le coup de le faire. Bah là, j'ai vu passer récemment une fille qui composait un musical sur César, donc en plus ça a donné lieu à plein de gens qui écrivent des trucs mythologiques, et en fait elle a écrit ça que pour des voix de femmes.
Ah, donc, mais des altos, je l'ai vu, non, en plus
Peut-être, oui, mais je vois qu'elle a écrit ça que pour des femmes, alors que bah, tout le truc de voilà, César, Brutus, les coups d'État...
Gros, je suis un homme.
Gros, romantique.
On en parlait du gender bending aujourd'hui.
La réflexion initiale était juste, ce serait marrant de voir une comédie musicale. Je pensais à Styx, en fait, à la base, qui est une comédie musicale où on n'a que des femmes comme protagonistes, ce qui est quand même pas mal, au final. Et je me suis dit, ce serait marrant d'avoir une comédie musicale à grand nom à Broadway qui nous aurait fait un truc à la Shakespeare, mais inversé. Mm. C'est-à-dire de voir que des femmes qui jouaient des rôles d'hommes. Je me suis dit que ça serait
rigolo. Shakespeare.
Franchement,
pardon,
Six en mode drag queen, iconique. Iconique.
Ah, c'est vrai que ça serait pas
iconique.
Mal. Mais c'est vrai que aussi, je me dis que c'est peut-être justement ce genre de petits projets comme ça, indépendants, qui ont le potentiel de prendre de l'ampleur, qui fait qu'on va peut-être pouvoir casser enfin ces codes hyper établis de la comédie musicale, de petite fille est une petite fille et gros garçon fait gros gaga. C'est hyper cool.
Puis même les codes de la comédie musicale de la scène, parce qu'on parlait d'épique, sorry, on a quand même un truc où c'est une version très différente de la comédie musicale. On peut dire oui, la comédie musicale animée, ça a existé par Disney, mais c'est quand même pas le même genre de comédie musicale. Et là, c'est la comédie musicale animée comme on le fait dans Épique, c'est quand même quelque chose de nouveau aussi, quoi.
Oui, ça se veut être une vraie comédie musicale animée et pas un dessin animé avec des chansons.
Oui.
Et c'est là où ça ouvre aussi des nouvelles portes à plein de choses. Mais on avait eu aussi ça avec Has Been Hotel ou des choses comme ça, qui commencent à arriver l'animation dans la comédie musicale. Fais une tête.
J'ai un bif avec Has Been Hotel, mais il n'y a pas de souci.
Mais c'est le concept, je compare les concepts.
Il n'y a aucun souci. Il fallait que je fasse une tête.
Mais c'est vrai que maintenant qu'on en parle, bah, Epic, il n'y a pas de théâtre, c'est juste un album en fait. Tout donc c'est fait. Un sing-through. Donc il n'y a pas de théâtre, c'est que de la chanson et du parler sur de la musique qui fait partie d'une chanson. C'est pas de l'underscore, et c'est peut-être la première fois, c'est vrai, que maintenant que vous me dites, que je vois enfin qu'il va y avoir un film a priori où il n'y a pas un moment où ça se tait, et dont moi je trouve ça génial,
dont c'est le concept initial, quoi. Ouais. C'est même pas ah bah finalement à faire ça c'est une bonne idée, c'est non, bah en fait
Et encore plus de gens qui viendront dire « Oh quoi, c'est une comédie musicale, mais moi je déteste les comédies musicales, je déteste quand ça chante au cinéma, pitié, libérez-moi !»
Mais tu sais, je vais leur accorder juste un peu de pain à ces gens-là, c'est parce que on met jamais les chansons dans les bandes annonces.
Ça, c'est vrai.
Donc, en fait, arrêtez de faire des comédies musicales pour les vendre comme des films normaux. Vraiment. Les gens sont déçus après.
Vraiment, juste
vendez une comédie musicale.
Et vous aurez tous les théâtres
qu'il a fallu aller voir pour savoir que c'était une comédie musicale.
C'est un sacré traumatisme pour les fans de comédie musicale, ce film.
Heureusement, on a eu René Rapp.
Oui, heureusement. Ouais, déjà ça.
Je me souviens encore très clairement de tous les gens qui soufflaient dans la salle de théâtre. J'étais avec Ange.
Oh là là.
À chaque début de chanson, après, c'est vrai que quand Stupid With Love a commencé, moi aussi, j'aurais pu souffler.
Oui, on a tous soufflé plusieurs fois.
Non, mais c'est vrai que c'est incroyable de voir ce genre de truc prendre autant d'ampleur.
Ouais,
et même, là, récemment, autre news qui est tombée qui me rend très heureuse parce que je vais pouvoir y aller, mais il y a Joy Woods et Jimmy Muscato qui vont reprendre les rôles principaux dans Cabaret. Il se trouve que. Truc de fou, mais il se trouve que ces deux personnes qui sont finalement maintenant un petit peu devenues des monuments, en fait, ils ont été connus et mis aux yeux du grand public. Via internet, parce que Jamie Muscato, la plupart des gens comme moi, ils en ont entendu parler sur son rôle de JD, où c'était la première fois que ça revenait, du coup Heathers qui avait fait un carton mais que sur internet finalement, et du coup il est revenu, il a pris ce rôle, il a fait le cast de London, et c'est comme ça que voilà, il a été sur le devant de la scène, Jamie Muscato. Et Joy Woods pareil avec My Days
qui a complètement explosé
avec voilà, qui vient de The Notebook, et c'est une chanson absolument mais atrocement difficile, genre
tu le sais.
oui voilà,
tu le sais très bien.
Et moi on a un passif avec My Days. Non mais c'est fou de se dire voilà, là ils sont passés de voilà, ils ont fait une chanson de fou et ça passait sur TikTok parce que la perf était dingue, et maintenant ouais. Ils vont main dans la main reprendre le rôle de Cabaret quoi à Londres, et c'est dingue ça. Parce que c'est un monument de la comédie musicale, Cabaret, et là c'est dingue de les voir tous les deux là se retrouver sur ce spectacle quoi.
Indirectement, merci au Slime Tutorial de façon générale du coup hein, parce que c'est aussi toutes ces vidéos là
bien sûr
qui sont illégales, et donc normalement on a ne filmez pas dans les salles de théâtre.
Ne le filmez pas, mais l'émission s'appelle Slime.
Ne filmez pas dans les salles de théâtre. Mais quand on tombe du coup sur des vidéos, c'est aussi ça qui participe à leur popularisation de
bien
façon
sûr.
Générale, parce qu'on les voit performer. Parce que nous, petits franchouillards dans notre Paris, Jimmy Muscato, on l'a pas vu sur scène, donc c'est parce qu'on est tombé sur des vidéos.
Puis même la démocratisation de la comédie musicale en France en général, parce que c'est vrai que c'était pas la chose la plus réputée au monde, et ça vient, c'est pas le plus gros truc en France, la comédie musicale, clairement. On a des trucs à Broadway, aux États-Unis, c'est quand même plus réputé, on a ça dans les écoles, etc. En France, plus rare.
Ça arrive.
Donc, ça arrive. Et je pense que c'est grâce à ça aussi, quoi.
Je le sens, ça arrive. Je sens un vent tourner.
Ça arrive, et tu en es la pionnière, du coup, puisque tu amènes la comédie musicale originale avec tes enfants.
Voilà, on est vraiment pas dans le style Broadway, pour le coup, sur celle-là. On est
peut-être que c'est toi la prochaine égérie de Tumblr, finalement. Ou de TikTok, en l'occurrence.
Je le souhaiterais. Mon rêve, c'est d'être la Sarah Barry de France.
Oh oui! Je pense que t'as le potentiel, en vrai.
Tu l'es à nos yeux, déjà.
J'espère.
Tu l'es à nos yeux, et je pense que, vu ce que les auditeurs ont entendu, je pense que maintenant, tu l'es dans leurs oreilles aussi.
Et encore, en live, les amis.
Mais allez voir, c'est promis, le 29 juin, au Théâtre Saint-Georges, à 20h, par pitié.
On merci invite des gens. C'est fou, c'est qu'on invite des gens pour faire leur promo, et en fait, c'est nous qui pensons.
Je suis investie d'une mission ce soir. Mes amis, je pense que c'est ainsi qu'on va devoir conclure cette émission.
C'est fou.
C'est déjà la fin de cette émission. On espère que vous avez passé une bonne soirée et que le spectacle était à votre goût. Avant de partir, n'oubliez pas de récupérer toutes vos affaires et de ne pas laisser vos gobelets vides par terre, s'il vous plaît. Les agents de ménage vous remercieront. Merci à nos invités exceptionnels, Andrea et Rosalie. Du coup, on vous retrouve le 29 juin au Théâtre Saint-Georges.
La menace.
Où est-ce qu'on peut prendre nos places, d'ailleurs?
Vous pouvez prendre vos places sur tous les réseaux qui me concernent, plutôt mes réseaux, oui. Vous avez un lien dans ma bio, Andrea Schneider _off sur Instagram, ou l'Instagram de la Broadway Factory, ou l'Instagram des cours d'Andrea. Franchement, en vrai, si vous tapez Andrea quelque part, il y a moyen que vous trouviez le lien de la billetterie.
C'est bon. J'espère que vous avez tous bien noté. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci également Élise.
Merci Ange, c'était super.
J'ai passé un excellent moment. Et merci également à David pour la réalisation, au pied levé qui plus est. Merci beaucoup pour ton super travail. Slime, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain sur Radio Campus Paris pour une nouvelle émission. Et en attendant, soutenez les spectacles, allez au théâtre. On rappelle quand même que le milieu de la culture est en danger. Mais à votre échelle, vous pouvez changer la donne. Et allez soutenir les artistes, allez voir des spectacles, vous verrez peut-être des croûtes, mais vous trouverez toujours une perle au milieu de tout ça. C'était Slime, salut !